Cobuzz.com. Rencontre
haute fidélité
par Mark Sisman.
Bonjour Thomas Vintrignier.
Bonjour.
Vous êtes à la tête d'un studio que vous avez monté qui s'appelle Sequenza, il y a à peu près 5 ans je crois, 5-6 ans.
Exactement, en fait j'ai acheté les murs fin 2005 et le studio existe commercialement depuis été 2006.
Vous êtes ingénieur du son comme on dit en général, vous avez un parcours peut-être un petit peu atypique puisque vous êtes polytechnicien, vous avez étudié le hautbois, vous en jouez encore je crois d'ailleurs de temps en temps.
Oui, c'est de plus en plus rare, j'avoue, ouais, vaut mieux pas en fait, justement pas pour les amis mais ça c'est un autre débat.
Mais finalement votre vie entre guillemets musicale elle est arrivée un petit peu sur le tard. Vous avez été je crois directeur d'une société de conseil en télécom au début des années 2000 et finalement hop vous avez switché du côté obscur de la force musicale à un certain moment. Alors je préciserai juste avant d'entamer cet entretien que vous spécialisez un petit peu plus dans la prise de son acoustique, c'est d'ailleurs écrit, d'ailleurs, quand on va sur le site, il y a écrit votre site, il y a écrit Sequenza.
Je revendique cette spécificité.
Voilà, prise de son acoustique, ce qui sous-entend principalement la musique classique, le jazz, la world, enfin musique du monde, comme on dit.
C'est-à-dire un instrument avec une mise en espace autour. Ouais.
Comment s'est fait ce switch? Pourquoi tout
le
à coup
switch,
j'imagine qu'évidemment la musique était en vous bien avant d'avoir ouvert ce studio et d'être devenu officiellement ingénieur du son. Qu'est-ce qui fait qu'un matin on se réveille et on change de costume?
Sans
faire du Freud de...
Non, te fais, je vais pas m'allonger, vous en faites pas. Rapidement, c'est compliqué de raconter une vie et un peu les grands mouvements qui vous permettent de prendre des directions. Il y a plusieurs choses. Il y a déjà, la musique était présente depuis longtemps. J'avais fait du hautbois, vous l'avez mentionné. J'ai joué dans pas mal d'orchestres classiques amateurs. Je revendique le côté amateur. J'ai jamais eu de volonté professionnelle autour du hautbois. Il est vrai que je marchais bien pendant les études. Donc, pareil, en France, il y a la ligne de plus grande pente qui est quand on marche bien dans les études, on fait un bac C. Après le bac C, on fait la prépa. Après la prépa, si on marche bien, on rentre dans les grandes écoles. Et voilà. Donc, je me suis retrouvé là. Par choix que j'assume, c'est quelque chose dans lequel je me suis reconnu, je me suis fait plaisir, les maths, la physique, mais aussi plein d'autres choses autour de la philo, etc., qui sont des matières qu'on aborde aussi dans ces écoles-là, on l'oublie aussi. Et puis je suis rentré dans la vie professionnelle traditionnelle, donc effectivement dans le conseil. On va pas faire le CV, c'est sans intérêt. Ce qui est intéressant, c'est plutôt comment est arrivé le côté musical. Et je dirais quelque part, il y a eu un événement de vie personnel qui a fait que je me suis retrouvé à me poser des questions assez structurantes sur où est-ce que je veux aller, à quoi ça sert tout ça, etc. Et puis je me suis rendu compte que ce que je vivais dans ma vie précédente, à savoir le conseil stratégique en télécom, pour donner un mot pompeux, je ne m'y retrouvais plus totalement. Voilà. Je m'y suis amusé, je ne vais pas cracher dans la soupe, c'était un moment super, je me suis éclaté, j'ai rencontré des gens à très bon niveau. C'était aussi très intéressant de voir comment fonctionne le système. C'est-à-dire, en gros, des grosses boîtes, toutes les boîtes du CAC 40, Total, comment ça marche, comment c'est organisé, comment ça communique entre eux, etc. C'était intéressant. Puis au bout d'un moment, je me suis dit... je m'y retrouve plus, j'ai besoin de laisser ma trace, j'ai besoin de faire de laisser quelque chose et puis surtout de développer une partie créative que j'avais un peu perdue. Parce que quand on monte dans les échelons d'une boîte, ce qui était mon cas auparavant, eh bien, on se retrouve à piloter des hommes, etc., mais moins à créer, etc. Donc moi j'avais vraiment besoin de cette synergie cerveau droit, cerveau gauche, qui est vraiment ce que j'ai retrouvé dans ce métier d'ingénieur du son. Donc c'est vrai que c'était un point important.
Mais en fait, est-ce que effectivement, dans cette première partie où j'imagine donc vous jouiez déjà d'un instrument, vous écoutiez j'imagine des disques, vous en achetiez sans doute, vous alliez au concert, est-ce que vraiment c'était exclusivement la musique ou malgré tout vous compariez, je sais pas, des albums entre eux sur la prise de son. Est-ce que la différence entre ce que vous entendiez à un concert et ensuite ce que vous écoutiez chez vous sur un disque vous intéressait, vous intriguait? Est-ce que par exemple, je sais que certains de vos confrères qui sont venus à ce micro s'amusaient déjà à bidouiller, soit sur leur chenille-fille ou à fabriquer des micros ou des sortes d'amplis avec des boîtes à chaussures mais presque. Oui, est-ce que vous aviez un côté un peu comme ça, je retrouve tout?
Oui, il y avait un côté un peu comme ça. Je me suis effectivement fabriqué des pré-amplis Raga, un peu comme tout le monde quand on est un peu passionné de ces choses-là. Je suis rentré un peu dans la bidouille. Oui, quand j'étais gamin, j'ai souvenir. Quand j'avais 10 ans, j'avais en fait démonté, je me suis fait tuer par mon père. J'avais démonté toutes les radios, toutes les petites radios qu'on a un peu à droite à gauche. Et en fait, j'avais une espèce de topaz. Hein, et j'avais branché en fait tous les petits haut-parleurs en série, les uns après les autres, pour en fait faire entourer la chambre de petits haut-parleurs. Donc je m'étais fait mon petit système surround en mono, évidemment. Ça servait
absolument
à rien.
C'était la première version de Sequenza.
Oui, c'est ça. Merci beaucoup de le mentionner comme ça. Donc ouais, effectivement, il y a ce côté-là. En fait, ce qui se passe, c'est que. Il y a évidemment un côté mélomane, mais plus on aime la musique, plus on rentre dedans, surtout quand on est musicien, on a envie ensuite de prendre le contrôle un peu quelque part et de modeler le son. C'est vraiment d'intervenir. On se dit, voilà, là par exemple, cet enregistrement, j'écoute les Pink Floyd, bon ben là, il y a le gamin qui pleure, est-ce que j'aurais pas voulu l'entendre un peu plus loin, ou les guitares un peu plus devant? Et là, on se dit, bah tiens, en fait, comment j'arrive là, quoi? Et quelque part, ben, la logique, elle vient juste après. C'est ingénieur du son, ensuite j'ai tous mes faders, et je peux décider de changer et de modeler le son à ce que moi je veux entendre. Voilà. Le plus difficile, enfin bon, on en parlera après, mais je pense que le plus difficile dans ce métier après étant d'avoir un fantasme de son. C'est-à-dire de savoir à l'avance ce qu'on veut faire plutôt que tourner les boutons jusqu'à ce qu'on trouve un truc qui soit, qui sonne bien, quoi. Je pense que la vraie étape supplémentaire qui fait qu'on grandit, c'est je sais ce que je veux, je sais à l'avance et je sais où je vais. Et la technique me sert qu'à. Voilà.
Justement, par rapport à ma question, est-ce que toutes ces questions, tout ce que vous venez de dire là, est-ce que c'est des choses que vous aviez déjà à l'esprit quand vous étiez directeur d'une société de conseil en télécom, par exemple ?
En fait, ça, c'est toujours resté une espèce de fantasme. Et donc, je ne m'autorisais pas à passer le pas. Un peu comme quelque chose qu'on ne veut pas toucher, un peu sacré. Et tant qu'il n'y a pas les bonnes conditions, bah, je ne m'autorise pas à passer le truc. Parce que je me suis dit, si, avec raison, que si je commençais à rentrer là-dedans, je cassais la dynamique en place. C'est-à-dire, je cassais la logique dans laquelle j'étais, de construction de ma vie, etc. Je pense que j'avais besoin de réaliser des choses dans l'ancien métier. Et j'ai voulu aller jusqu'au bout, ce que j'ai fait. Je n'ai pas voulu toucher avant à ça, au fantasme et au plaisir, avant d'être dans les bonnes conditions. Ça, c'est un peu comme... vous aimez quelque chose, si vous n'avez pas les bonnes conditions qui sont réunies, quelque chose qui est une passion, vous risquez de l'abîmer. Imaginez par exemple, je me lance dans une démarche de studio, mais j'ai pas fait tout ce que je voulais avant, ou alors je suis pas sûr de ma démarche, je serais rentré là-dedans. Je me serais planté parce que je pense que c'est métier de passion et en plus difficile en ce moment, on le sait. Si on n'est pas, si on n'a pas le feu et qu'on n'est pas totalement assis dans ses convictions, je pense qu'on peut pas y aller, on peut pas y arriver. Enfin, ça c'est ma conviction. Donc voilà, j'ai pas voulu toucher en fait à la passion avant d'être sûr. Quoi.
We'll be right back.
aviez une feuille de route précise en tête quand vous avez monté, quand vous avez ouvert la... Vous avez fini de inaugurer Sequenza. Est-ce que vous aviez, par rapport à d'autres studios existants, par rapport à la démarche, les gens avec lesquels vous vouliez travailler ? Il y a aussi autre chose, on en parlera peut-être aussi. J'ai la deuxième partie de la question, c'est que la chose assez osée, c'est que ça a ouvert, donc on a dit à peu près 2005-2006.
Ouais, c'était déjà la
fin du monde, on pourrait dire,
dans
l'industrie du disque. Vous n'êtes pas comme certains de vos confrères générationnellement qui ont connu les années 70, 80, 90 et actuellement, qui ont vu une sorte d'ascension de la montagne, puis une chute. Vous avez directement, vous êtes arrivé. En champ de bataille avec des corps partout.
Absolument. Ouais. Non, effectivement, je suis arrivé à un moment où effectivement, c'était la zone. Il n'y a pas vraiment de feuille de route. Moi, j'ai décidé de faire ce que je voulais faire. Je n'ai pas fait une étude de marché en me disant, voilà, parmi tous les studios existants, il y en a tant qui font le pop-rock, voici le paysage concurrentiel, etc. Bon, certes, j'ai fait un business plan histoire de voir si mon affaire pouvait tourner.
Pour que la banque vous suive.
Ouais, enfin, la banque, on en reparlera si ça vous intéresse. Mais enfin, la banque, elle suit pas, de toute façon. Donc là, c'était justement parce que j'ai bien gagné ma vie. Et quand je parlais des bonnes conditions, c'est entre autres, faut savoir dire les choses, parce que j'avais les conditions financières, parce que j'avais très bien gagné ma vie dans la vie précédente, que j'ai pu effectivement me lancer là-dedans dans des bonnes conditions, sans faire de sacrifices, sans couper les coins, comme disent les Anglais. Donc voilà. Donc feuille de route, oui, enfin, j'étais guidé par ce que j'aimais faire. Et je pense encore une fois, dans ce métier-là, si on pense uniquement en termes de positionnement stratégique, rentabilité,
plus d'envie,
etc.,
tout
mais voilà,
d'envie,
c'est exactement ça. C'est juste.
Vos envies,
est-ce
que vous aviez des envies précises, même sans parler de rentabilité de...
Ouais, non, mais bien sûr, les envies précises, c'était de servir une musique qui me plaisait. D'ailleurs, moi, effectivement, mon histoire, c'est surtout classique. Bon, enfin, j'écoute aussi beaucoup d'autres choses, hein, pour en parler si ça vous intéresse. Mais pour moi, c'était servir. Enfin, je sais pas, moi, j'ai été 20 ans en orchestre. Donc, j'ai été 20 ans à côté d'une flûte. En face de moi, il y avait le quatuor à cordes. Derrière moi, il y avait les cuivres. Encore derrière, il y avait des chœurs. Donc, j'étais en plein milieu des instruments et j'étais baigné là-dedans. Donc, pour moi, être capable de retranscrire, recréer ça et retransmettre ça dans un disque, c'était quelque chose qui était intéressant, oui, tout à fait. Ouais.
Il y a quelque chose, c'est qu'effectivement, vous avez parlé d'une envie quand vous avez monté studio de création, chose que vous n'aviez peut-être moins auparavant, mais cette création, vous ne la faites pas tout seul, puisqu'il vous faut de la musique pour ça, donc des musiciens.
Oui.
Donc il y a le partage un peu quand même, et au centre, au cœur de votre...
Évidemment.
De votre action. Comment justement on vit ça, ou comment on choisit les gens avec lesquels on veut travailler, comment on découvre être à l'écoute, puis en même temps trouver le juste équilibre entre ce que veut le ou les musiciens et vous, votre vision de la musique.
Ma façon de voir quand on commence une collaboration avec un groupe, avec des musiciens, c'est qu'il y a vraiment une phase où on se renifle. C'est très simple. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai pas souvenir, ou alors ça se compte sur deux doigts, les nombres de fois où une production s'est mal passée. Ça, concrètement, je pense qu'il y a toute une phase de discussion où on parle musique, on parle de nos influences, des disques qu'on aime. Ouais, enfin, je sais pas, je le vois vraiment comme une rencontre. Moi, pour moi, le temps de la production, on fait partie de l'ensemble. Ça, c'est très clair. On n'est pas un spectateur extérieur qui est là de façon anonyme pour prendre une photo, une image temporelle de ce qui s'est passé à un instant T dans une boîte, dans un studio, quoi. Donc ça, c'est pas ça la démarche. La démarche, c'est de rentrer en communication. Et justement, l'interaction, il se passe quelque chose. Donc là, effectivement, j'imagine que c'est à ça que vous voulez m'amener à parler. C'est comment se fait une rencontre. Et là, un truc important, là où on se rend compte que la communication se passe bien avec un musicien, c'est quand on parle le même langage musical. Je ne sais pas si vous avez constaté comme moi, mais le français est très pauvre en termes de vocabulaire pour décrire spécifiquement le son. On est obligé d'emprunter beaucoup à l'image, on emprunte beaucoup au sensoriel, au toucher, etc. On parle de son voluptueux, on parle de son enveloppant, on parle de son chaleureux, mais il y a très peu d'adjectifs qualificatifs spécifiques pour le son. Donc on est obligé de faire appel à des images, à une espèce de culture sous-jacente. Et justement, de cette capacité à communiquer à ce niveau-là, donc un niveau autre que juste la parole avec un musicien, de là découle la possibilité ou pas d'échanger à très bon niveau pour avancer dans une production. Je ne sais pas si je suis clair.
Vous êtes déjà trouvé justement confronté parfois à des difficultés au moment de lancer un projet avec un musicien.
Oui, tout à fait. Et encore une fois, ce n'était pas un problème de capacité ni d'un côté ni de l'autre. C'était juste un problème de communication. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on me dit enveloppant. Moi, je traduis ça en termes d'un son plus de réverb, pour faire simple. Un exemple tout bête. Et puis en fait, plus enveloppant, lui, il voulait plus de grave. Donc c'est idiot, mais effectivement, on y arrive comme ça. C'est un cas un petit exemple.
Il faut trouver le lexique.
Mais en fait, c'est trouver le bon lexique et puis voilà la sensibilité. Ouais. Quoi. Il y a le fit ou pas. Et c'est pas nécessairement une question de valeur ou de qualité de personne, etc. Ouais. Quoi. Vraiment. Ouais.
Comment s'est fait concrètement votre formation, j'allais dire techniquement, on apprend sur le tard, j'imagine. Vous avez rencontré Philippe Tessier-Ducrot aussi.
Oui, ça effectivement, c'est une rencontre qui a beaucoup marqué dans ma profession, dans la création du studio.
Vous aviez des ingénieurs du son quand vous avez commencé à vous engager dans cette voie, un peu modèle ou des prises de son particulières qui vous tenaient à cœur. J'imagine que dans votre éducation musicale, dans votre jeunesse ou ensuite, il y a peut-être des disques qui ont plus compter que d'autres pour vous, évidemment au niveau musical, mais aussi peut-être pour un aspect sonore.
Ouais. Pour moi, il y a deux très belles références, deux très très beaux labels. Pour moi, c'est L'Oiselire des Calandon, pour moi, avec The Academy of Ancient Music, toutes les productions Christopher Hogwood, ça c'est pour moi, c'est des sons extraordinaires. Voilà, exactement. Et puis pas mal de choses aussi chez Archive, ou Archive, ça dépend si on prononce à l'allemand ou pas. Voilà. Ça, c'est effectivement des très belles références de sons. Voilà.
Donc comment ça se passe quand on commence comme ça, on veut aussi apporter sa touche personnelle, on tâtonne, on expérimente.
Beaucoup d'humilité déjà, parce qu'entre la première fois on sort les micros, c'est intéressant d'ailleurs, si ça vous intéresse, de faire le parcours un peu de mes choix de matériel, non pas pour parler de matériel, mais justement je suis rentré au début dans une démarche très... Enfin, micro très transparent, il s'agit de respecter au maximum le signal sonore. Et puis, plus c'est allé, plus je suis allé vers la couleur. Mais quelque chose que je me suis autorisé à faire que petit à petit. Et puis, bon, enfin bref.
Sur les résultats de certains projets qui vous ont fait justement évoluer comme
absolument,
ça.
Absolument, oui, clairement. C'est-à-dire qu'au départ, je réécoute certaines de mes premières productions. Les trucs sont pas mal, mais bon, évidemment, on rejette tout ce qu'on avait fait avant. Mais je me suis rendu compte qu'effectivement, j'étais trop. C'était trop propre. C'est trop propre. Et plus ça va, plus je m'autorise à rajouter du gras, de la couleur, à interpréter. Je pense que c'est la bonne façon de le dire. Interpréter, à s'approprier. Donc au départ, il y avait une espèce de trop grand respect de la matière sonore, du musicien, de la musique, de la partition, du texte, etc. Machin. Et puis après, on se dit, mais j'ai le droit, en fait. J'ai le droit, je le prends. Et j'ai envie de te raconter cette histoire. Et, voilà. et puis au fur et à mesure, c'est construit. Ouais.
Comment on se constitue comme ça son kit d'armes, j'allais dire, d'armes. Quand on commence au milieu des années 2000, où il y a déjà une pléthore de choix. Donc, on tâtonne, on écoute à droite et à gauche, à gauche les conseils, j'imagine. Est-ce que c'est une sorte de geek à aller parcourir tous les salons audio aux quatre coins du monde pour essayer de tester, d'essayer de voir comment ça a fonctionné au début?
On parle de choix de matériel, choses comme ça, par exemple. Oui, enfin, moi, non, j'étais pas trop ambiance aller dans tous les salons.
C'était pas le gros geek à courir.
Non, tout à fait. Moi, j'étais plutôt... du style, effectivement, à écouter des choses, à rencontrer des gens. Encore une fois, la rencontre avec Philippe était, de ce point de vue-là, assez extraordinaire, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de métiers, qui a une très belle oreille, c'est un technicien hors pair, et voilà, qui avait déjà une approche qui est la sienne. Il y a des choses auxquelles j'ai adhéré, il y a des choses auxquelles je n'ai pas adhéré, donc après on fait son choix, mais en tout cas je me suis nourri de son travail évidemment, je me suis nourri de travail d'autres personnes, par exemple il y a des gens de chez Zigzag qui sont venus assez régulièrement enregistrer au studio, donc Franck Jaffres, Alban Moreau, voilà, et pareil, on entend des choses, récemment c'est Sébastien Noli qui est venu aussi ici au studio, Jean Châteauret, enfin c'est tous des ingénieurs du son que j'ai vu travailler, et puis il n'y a pas uniquement le choix du matériel, il y a aussi le matériel, et sa mise en condition. Parce qu'un même micro, suivant qu'on le place plus ou moins près, plus ou moins machin, etc., on va l'utiliser différemment. Donc évidemment, là, il se passe encore des choses.
Ouais. Est-ce que vous avez comme ça, avec l'habitude, avec des sortes de recettes un petit peu, et vous commencez à avoir votre kit de... Alors je sais que c'est toujours difficile, est-ce qu'il y a un son Vintrigné ou pas, ou est-ce que vous
ça commence hein.
ça commence
non mais c'est
les questions
parce
que vous posez,
je suis tout le temps en doute, j'ai aucune certitude, enfin plus ça va et plus moins j'ai de certitude, je commence seulement maintenant à être vaguement satisfait de mes productions, je ne vais pas le dire, bon j'espère qu'il n'y a pas trop de... voilà, ça ne veut pas dire que tout ce que j'ai fait c'est ça exactement, on dit attends tu m'as fait de la merde, non. C'est pas si simple, c'est plutôt que il y a un temps d'apprentissage, un temps de... Enfin, encore une fois, c'était pas tant... Voilà, en fait, je pense là, pourquoi j'ai ce regard un peu dur sur ce que j'ai pu faire, c'est parce que je pense que j'ai mis du temps pour assumer mes désirs, assumer mon envie, assumer mon interprétation. Je pense qu'avant, j'étais trop respectueux. Enfin, on a déjà parlé tout à l'heure, c'est vraiment là. De plus en plus, je m'approprie la musique et je la mets en scène. Je la mets en scène. Donc après, pour revenir à votre question initiale sur est-ce que j'ai des kits ou des recettes? Oui, effectivement, au fur et à mesure, je me rends compte qu'il y a certains micros que j'aime bien sur tel instrument. Effectivement, il y a des micros, je me rends compte que là, par contre, ça ne le fait pas du tout. Ouais, mais quand je commence une production... Je n'arrive pas avec un copier-coller de la production d'avant qui a pas mal marché. Et voilà, c'est qu'en fait, par exemple, un kit de batterie, c'est idiot, mais rien que pour moi, il y a tout un travail énorme de travail de réglage avec le batteur. Ça, pour moi, un truc qui de plus en plus devient évident, qui est si au départ ça sonne pas dans la pièce, ça sert à rien d'essayer d'avoir le dernier micro vintage, machin, ce que tu veux. Donc il y a tout un travail autour de ça. Je dis des trivialités, mais c'est important, important à rappeler. Voilà. Et puis plus ça va aussi, parce que j'ai la chance au fur et à mesure de travailler avec des gens de qualité, je me rends compte que plus les musiciens sont bons, moins on a de travail à faire nous. Mais vraiment quoi. Vraiment, ça c'est quelque chose qui est assez étonnant. Quelque part, c'est plus facile de faire des très bons disques quand on est avec des bons musiciens. Encore une fois, des trivialités, mais vraiment, quoi. Mmh. Je pense qu'on donnerait, ça serait d'ailleurs super intéressant, ça, comme travail, faire passer des musiciens amateurs ou pas super niveau entre les mains de très grands ingénieurs du son, savoir comment ils s'en sortent.
Sans citer de nom, vous êtes déjà retrouvé face à justement à des dossiers un petit peu tendus, un petit peu peu évidents.
Oui, bah effectivement, voilà.
Essayer de faire des miracles.
Voilà,
aussi,
exactement. Ouais, et puis je me suis rendu compte qu'en fait,
sur les bons exercices en même temps.
Oui, clairement. Mais je me suis rendu compte que je tapais à fond dans les machines pour corriger tel ou tel problème, parce que ça sonnait pas, parce que la basse elle était pas homogène, parce que la batterie sa caisse claire elle zinguait, etc. Donc on tape dans les EQ, on compresse dans tous les sens pour arriver à un. Et puis à la fin on arrive, mais bon, ok, t'as maîtrisé le truc, mais ça sonne plus, ça sonne plus. Puis après tu fais un pas sur toute ta chaîne de traitement, que ce soit plugin ou hardware, et puis tu dis bon bah là en fait ça sonne le mieux, et bon, plus ça va, plus j'arrive à une modération en fait, hein. c'est étonnant.
My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? When you open it to speak, are you smart? But don't change a hair for me, not if you care for me. Stay, little Valentine, stay. Each day is Valentine's Day. Ooh. Ooh. Is your mouth a little weak? When you open it to speak, are you smart? But don't change a hair for me, not if you care for me. Stay.
Each day is Valentine's Day.
Est-ce qu'il y a dans la prise de son, il y a une configuration qui vous tient plus à cœur que d'autres ? On l'a dit au début, vous faites aussi bien des orchestres que des solistes, du classique ou du jazz. Est-ce que, même si j'imagine que chaque projet peut être intéressant et vous pouvez prendre du plaisir, est-ce qu'il y a quand même une type de prise de son qui vous donne plus de frissons que d'autres?
Ouais. Moi, je vous l'avez compris dans les références que j'ai citées tout à l'heure, je suis très j'aime beaucoup le son des instruments anciens. Et donc là, j'ai une espèce de fantasme autour de ça, parce que avec cette musique, on est à la fois dans l'intime et dans le large. C'est qu'on peut se permettre de se rapprocher en termes de prise de son, on peut se permettre de se rapprocher des instruments, d'avoir vraiment le grain, la chaleur, la densité, et en même temps, ce sont des musiques qui requièrent aussi pas mal d'espace, pas mal d'enveloppement. Donc oui, effectivement, une formation baroque, pour moi, c'est un vrai fantasme. Baroque ou Renaissance, pour moi, je prends mon pied, quoi.
Même si chacun de vos projets, j'imagine, était formateur, intéressant, etc., est-ce qu'il y en a quand même un ou deux, ou je sais pas, quelques-uns, qui vous ont fait grandir professionnellement d'une certaine manière, sortir de ce projet, vous êtes dit, là je sens que j'ai fait quelque chose, vraiment, j'ai passé un palier, un cap. Alors c'est sans doute parfois peut-être lié à des rencontres aussi humaines et musicales, mais est-ce que techniquement il y a certains de vos projets qui vous ont fait passer un cap?
Oui, tout à fait. Alors est-ce que je lirais ça à un projet? Je ne sais pas. Moi je suis quelqu'un qui... Enfin, encore une fois, on n'est jamais satisfait de ces mix et ces machins, j'en ai déjà parlé. Ce qui arrive souvent, c'est que je fais le projet dans certaines conditions, voilà, je fais au mieux de ce que je sais faire à un moment donné, et bon, après, ça peut... Bon, ouais, tant pis, on a dit qu'on ouvrait tout et qu'on disait tout. Mais ça m'arrive assez souvent, ensuite, de repasser du temps pour moi, donc 2, 3, 4 jours après, à interroger la matière sonore. C'est qu'en gros, je dis, voilà, j'ai enregistré ça, voilà, j'ai livré le disque, et j'en suis satisfait, et c'est un beau travail, mais ensuite, je reprends les bandes, et je vais jusqu'au bout. C'est qu'en gros, j'essaye tout. J'essaye tout jusqu'à ce que j'arrive à quelque chose, et je pense que c'est à ce moment-là surtout que je grandis, pour répondre à votre question. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas un projet qui me fait grandir. Un projet est une rencontre, c'est un événement, c'est effectivement quelque chose qui est une photographie d'une belle rencontre. Mais pour répondre à votre question sur le fait à quel moment je grandis, c'est dans ces phases un petit peu dans mon antre, où il y a personne, où il y a pas le musicien à côté,
qui dit, voilà, avec ses éprouvettes et qui
si vous voulez, enfin c'est là où effectivement j'essaye des choses et voilà, et j'avance. Par exemple, moi je sais qu'il y a un point qui m'a pas mal travaillé, c'est le tout ce qui est gestion des délais entre micros. C'est un point technique qui m'a travaillé, parce que en orchestre, tout ce qui est effectivement musique classique, mais c'est ce qui est génial, c'est que ça peut s'appliquer dans plein d'autres domaines aussi, le jazz ou même un kit de batterie. Quand on enregistre donc un instrument ou un ensemble avec plusieurs micros, le fait que le micro soit pas positionné au même endroit dans la pièce fait que il y a un phasing, c'est-à-dire qu'en gros le micro le plus proche va prendre un front d'onde et le micro plus éloigné va prendre un front d'onde un peu différent, mais avec un délai. Et donc la problématique de savoir est-ce que je remets les deux en phase ou pas intervient. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai fouillé, et c'est voilà, je suis arrivé enfin à quelque chose qui me plaît, mais ça a demandé beaucoup de travail. Donc ouais, dans la série Les Éprouvettes, Les Expériences, j'ai pas mal travaillé autour de ça. Donc là, j'ai trouvé enfin un outil qui s'appuie sur des techniques de cross-corrélation, on appelle ça la cross-corrélation, pour trouver les délais, pour identifier les délais entre par exemple une paire principale et le micro d'appoint. Ça, c'est quelque chose qui m'a pas mal suivi. Voilà, j'ai enfin la solution. Après, ça veut pas dire que c'est monstrueux, mais dans la série, les choses qui m'ont fait avancer, ouais, ça en a fait partie. Ouais.
Comment le mélomane que vous êtes, et le professionnel de cette affaire en même temps, voit la dématérialisation de la musique?
Moi, j'aime bien l'objet. Je suis un fan de vinyle. J'ai jamais, par contre, été amoureux du CD. Donc le fait que le CD se casse la gueule en soi me fait pas pleurer.
Il y avait un peu un retour du vinyle en plus.
Non, moi le vinyle, c'est vraiment un objet que je regrette. Enfin, je regrette, j'en ai 3000 à la maison, mais je regrette qu'il ait pas perduré. Puis en plus, pour d'autres aspects aussi, le son, etc. Ce qui est dématérialisation, ça c'est un point important. Il y a évidemment un tournant qui n'a pas été pris par l'industrie du disque, et je pense qu'on rattrape seulement maintenant un certain nombre de retards. Moi, mon gros regret, c'est qu'on n'a pas su faire la grande unification entre, d'un côté, ce qu'a apporté la dématérialisation autour du MP3, c'est-à-dire que, par exemple, on pouvait avoir quasiment l'équivalent d'une discothèque dans un tout petit appareil, donc ça, c'est absolument génial, et de l'autre côté, la qualité de restitution qu'on a avec une chaîne IFI. Et pour moi, l'avenir des amateurs de musique et des mélomanes, c'est effectivement de pouvoir fusionner les deux. C'est-à-dire que je suis capable, en tant que mélomane, de mettre dans mon salon et d'écouter dans très bonnes conditions l'ensemble de ma discothèque de façon super sympa. C'est-à-dire qu'en gros, j'ouvre mon iPad ou mon iPhone et puis je vais sélectionner de façon pratique et agréable sans avoir à me lever à chaque fois que j'ai un pour mettre le titre que je veux. Et ça, ce qui est étonnant, c'est vraiment un point sur lequel je m'étonne encore. Toute la techno est là. Ça, pour faire ces boîtes-là, en gros, ce qu'il faudrait, c'est un équipement gros comme un lecteur CD, dans lequel il y a un gros disque dur ou alors avec une connexion streaming derrière, une interface normalisée. Le côté normalisé est important parce que chacun tire un peu chacun de sa norme, etc. Une interface normalisée pour accéder à mes discothèques. Et voilà. Et ça, là-dedans, dans la boîte, il n'y a rien. Il y a un disque dur et puis un convertisseur. Ouais, d'accord. Voilà, et puis un système pour communiquer avec l'iPad ou l'iPhone. Et puis voilà, quoi. Et ça, bon, effectivement, il y a certains constructeurs qui l'ont. Je pense à Lean, par exemple, parce que bon, c'est, je pense, voilà, un ami qui est Frédéric Vedel de Audio Synthèse qui avant ça, et c'est quelqu'un qui m'a fait découvrir ce genre de choses. Pour moi, ça, c'est la bonne solution. C'est qu'en gros, voilà, enfin, je l'ai déjà dit, hein, l'unification de ces deux besoins, quoi. Ouais.
Quel mélomane vous êtes aujourd'hui? Maintenant vous êtes dedans, vous avez du son du matin au soir, vous travaillez avec. Quand vous fermez la porte du studio, vous rentrez chez vous et que vous ne touchez pas à ces bandes que vous avez dit ramener de temps en temps chez vous, est-ce que vous écoutez plutôt du silence? Est-ce que vous avez plutôt tendance à retourner dans votre vaste discothèque de vinyle? Est-ce que vous allez au concert?
Oui, effectivement, c'est tout ça. Alors déjà, surtout ne jamais réécouter ses propres productions, je suis incapable. Ça, c'est vraiment quelque chose, j'en suis incapable. Donc la première chose, ça c'est déjà fait. Sinon, je continue quand même à écouter beaucoup de musique, hein, ça c'est certain. On se refait pas.
Vous en écoutez moins finalement depuis que c'est votre métier un petit peu? Ou non, ça devient plutôt des phases?
Ouais, c'est des phases. Enfin, là vraiment, ça suit ma vie personnelle, mes envies, mes où j'en suis. Là, je sais pas, j'écoute pas mal. Je redécouvre les Dead Can Dance, Radiohead, Tindersticks, Thelonious Monk. Je suis dans quoi? Petrucciani, Nick Incioni. Enfin, c'est hyper large.
En mode shuffle.
Ouais, c'est exactement ça, voilà.
Try to say.
vous citez des noms de, d'artistes amplifiés, on pourrait dire, ou électriques.
Ouais, absolument. Ouais.
Ce choix de ne vous occuper que de prise de son acoustique, est-ce qu'il y a un moment, justement, au début, vous avez hésité, ou tout de suite, pour vous, c'était l'évidence, ce n'était que l'acoustique qui vous intéressait?
Moi, c'est l'acoustique qui m'intéressait. Alors, c'est paradoxal, parce que, effectivement, vous l'avez relevé, dans mes goûts musicaux, j'ai une forte tendance électro, ce qui ne m'empêche pas d'écouter beaucoup de classiques, beaucoup de jazz, mais une forte tendance électro. Mais à titre personnel, pour ce qui est du travail du son, un disque électro, dans pas mal de cas, c'est en gros, je fais tourner live, hein, et puis j'ai des séquences que j'allume, j'éteins. En tant qu'ingé son, c'est pas super bandant, quoi. Pardon, c'est en gros, moi, ce qui m'intéresse, c'est rentrer en contact avec la matière sonore.
Oui, le musicien lui-même peut faire office de, fait voilà. office d'ailleurs de producteur. Voilà, d'ailleurs, de producteur, en plus,
effectivement. Donc,
il fait tout le boulot.
Voilà. Mais par contre, je pense que je ne m'interdis pas, parce que enfin j'ai des envies de production où je serais capable
faire rencontrer les deux
mondes. Ouais, vraiment, ouais. J'ai entre autres un fantasme autour de faire intervenir des instruments baroques. On est en ce moment, il y a beaucoup de retours vers les anciens synthés analogiques, les amplis, re-amping, etc. Enfin, il y a beaucoup de recherches autour du son proprement dit, au-delà de la musique, hein, de l'écriture. Et je pense qu'on a oublié cette foison, cet éventail de sonorité que sont les instruments anciens, les instruments baroques. Une vielle, c'est quelque chose d'exceptionnel, quoi. Un tournebout, cromorne, voilà, cervela, c'est des sons absolument géniaux. Et je comprends pas qu'on les utilise pas. Même pour faire l'électro, quoi, même pour faire des boucles, etc. Il y a des choses fantastiques à faire, vraiment.
Bon, est-ce que le musicien que vous êtes, alors peut-être de manière un petit peu plus
dilettante,
en ce moment, aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a jamais d'envie ou de frustration par rapport à ça, d'essayer de revenir à jouer plus, comme vous le faisiez finalement avant, quand vous étiez en orchestre, ou non, finalement vous... Après, évidemment, les journées font 24 heures, mais...
Ouais, c'est ça. Ça a pris beaucoup de place, hein, cette histoire de studio. C'est qu'en gros, ça a pris vraiment toute ma vie pendant 6, 7 ans, 8 ans. J'ai beaucoup travaillé là-dedans, trop travaillé là-dedans, je pense. J'ai essayé de côté pas mal de choses, ce qui ne m'empêchait pas de vivre par ailleurs, d'avoir des amis, etc. Mais j'ai pas de regrets par rapport au bois. J'y reviendrai peut-être plus tard. Là, c'est marrant, j'ai plutôt envie de faire du théâtre. Voilà. Non, mais c'est vrai, la musique a déjà pris tellement de place, hein, et je m'éclate tellement que j'ai pas besoin de réactiver encore des zones comme ça, de choses. Ouais, à côté.
Est-ce que le mélomane que vous êtes, quand il écoute de la musique, est-ce que de par votre profession, finalement, c'est un peu biaisé, parce que dès que vous entendez un son, une musique qui sort d'une radio ou d'un concert, une partie de votre cerveau fait tout de suite une analyse.
Une analyse,
vous arrivez encore à prendre des claques sans faire attention à la prise de son.
Carrément, c'est obligé, bien sûr. Bien sûr.
Il n'y a pas de déformation professionnelle pour l'instant.
J'essaye, ce qui n'empêche pas. En fait, comment vous dire, c'est plutôt quand ça ne va pas que ça se met à scanner. Voilà. Quand ça va, quand la musique est là, tu ne poses pas la question de savoir si la basse est trop forte ou s'il y a une bosse à 300 Hz ou machin, ça on s'en fout, quoi. Quand la musique est là, tu rentres dedans et puis c'est bon, quoi.
Comment vous regardez vos confrères, est-ce que vous vous intéressez un peu à ce qui se fait ailleurs, par curiosité ou juste sans compétition ou quoi que ce soit, ça vous intéresse ou pas tant que ça, vous faites votre
sincèrement
business,
non
et puis,
voilà. Sincèrement non, parce que dès le départ, en fait, j'étais pas du tout dans le cursus habituel. Hein, on l'a dit, j'ai des études qui n'ont rien à voir. Effectivement, tout ce qui a généré du son, ça faisait partie intrinsèquement des parties techniques, mais j'ai pas suivi. Voilà, et donc quelque part, je suis dans ma sphère, ce qui n'empêche pas l'intérêt des rencontres, etc. Mais c'est des rencontres individuelles. De là à faire un scan du marché, de ce qui se passe, non. Moi, je prends un disque, j'écoute, je salue la qualité du son. D'ailleurs, ça m'est arrivé d'envoyer un message à un confrère dont j'ai apprécié la prise de son. Voilà, enfin c'est. Je suis pas dans une comparaison. C'est peut-être étonnant. Enfin, il y a vraiment une espèce d'humilité, de dire voilà, moi j'en suis là. Moi, je sais que c'est pas. Je n'ai entre guillemets que 10 ans dans le métier. Je parle à des gens qui ont plus d'expérience que moi. Voilà, donc je me mets pas en comparaison avec eux. Par contre, j'apprécie, je me nourris. Enfin, voilà. On est dans le compagnonnage. On n'est pas dans une histoire d'environnement concurrentiel, enfin je vois pas ça comme ça.
C'est un avantage finalement, un inconvénient d'avoir commencé tard, de n'avoir que 10 ans d'ancienneté quand on a la quarantaine, plutôt que d'avoir commencé finalement à 18 ans.
C'est certain, j'ai un regard neuf, c'est certain, j'ai pas j'ai pas été formé, modelé, restreint par voilà, des ingé-sons dont j'aurais été l'assistant, qui m'auraient effectivement formaté l'oreille, etc. Voilà, au moins ce que je peux dire, c'est que ce qui sort de chez moi, c'est vraiment moi, quoi. C'est-à-dire qu'il y a pas, ce qui, encore une fois, faut pas se tromper, ça veut dire que je suis pas ouvert aux influences, à l'écoute, à absorber ce qui vient de l'extérieur, mais ouais, enfin voilà, quoi, c'est... Il y avait tellement de notions de... Enfin, si je cherche mes mots, c'est parce qu'en fait, on revient à chaque fois à ce qui m'a fait changer dans ces directions. C'est que c'est vraiment le plaisir et la réalisation totale qui m'a fait aller là. Si c'était pour une histoire de fric, j'aurais mieux fait de rester... carrément mieux, un facteur au moins 10. Ouais.
Vous n'avez pas fait ça pour
ouais,
la thune,
ça, c'est sûr. Ouais. Là, c'était vraiment une histoire de réalisation personnelle. Ouais. Donc ouais, c'est le plaisir qui me drive là, tout à fait.
Vous avez des sortes de saint graal en termes d'albums dans votre discothèque de vinyle ou même autre, qui restent des disques qui pour vous sont des sortes de must en termes, certes évidemment musical, mais même en termes de prise de son qui restent un peu des sortes de maîtres étalons pour vous. Mmh. S'il y en a un, deux, trois, quelques-uns comme ça qui...
Ouais, tout à fait, y a le Nisi Dominus de Vivaldi, voilà, Christopher Good, toujours pareil, voilà. J'aime beaucoup, j'ai cité tout à l'heure Radiohead, Kid A, ça c'est très très beau. On parlait aussi des Tindersticks. Il y a un album en particulier qui sont les BBC Sessions, qui sont des albums un peu minimalistes. Ils recevaient la BBC, puis c'était un album qui était fait rapidement, etc. Et là, il y a un son pareil, extrêmement, qui est hyper léché, puis surtout hyper spontané en termes de musique. La voix est géniale. Il y a plein de moments où ça craque, mais c'est super. Enfin bon, voilà. Voilà un peu quelques exemples.
C'est bien, c'est assez éclectique.
Ouais, non, ça fait. Ouais.
C'est quoi les projets sur lesquels vous travaillez actuellement ou ceux qui devraient venir dans les semaines ou les mois à venir?
Alors là, il y a par exemple un projet de musique renaissance, justement, qui a été enregistré à la Sainte-Chapelle. Ça, c'est un très beau projet. J'ai un projet de clavecin qu'on a enregistré avec Olivier Beaumont dans deux beaux, très beaux châteaux en Normandie. Je sors juste d'un très chouette projet jazz-rock avec un groupe qui s'appelle Electric Hannibal. Et d'ailleurs, dans la série Les Petites Productions, on prend beaucoup de plaisir. Ça, c'était un très beau projet. En fait, c'est des soi-disant amateurs. Enfin, ils sont présentés comme amateurs quand ils sont venus me voir. Et en fait, les gars, ils envoyaient... c'était super. Et en termes de collaboration, c'est-à-dire qu'en gros, la capacité à interagir musicalement avec eux était géniale. Et on vient de faire un très, très bel album ensemble, qui a été masterisé d'ailleurs par Raphaël Janin, que vous avez dû voir passer, j'imagine, sur vos ondes, qui est un ami. Voilà, donc c'était super. Quoi.
Des envies, des rêves de musiciens, j'imagine qu'il y a une grande liste, mais
ouais.
Quelques-uns comme ça, avec
alors,
qui
moi,
vraiment
j'aimerais
vous aimeriez beaucoup échanger et travailler, ouais, tout simplement.
Si Renaud Garcia-Fons, par exemple, a envie de travailler avec moi, j'aimerais bien travailler avec lui, ça c'est clair. Ouais, j'aime beaucoup ses voyages. Ah, c'est très très beaux albums. Bon, en même temps, il est déjà bien servi, ses albums sont déjà très belles factures, donc j'aime beaucoup ce qu'il fait. Voilà. Et puis toujours ce même projet où en fait j'ai besoin de monter une équipe autour de ce projet électro-baroque ou électro-musique ancienne, où là il faudrait vraiment faire une équipe entre donc un ingé son évidemment, un compositeur et puis des musiciens qui ont envie de rentrer dans l'aventure. Ça, ouais, ça, j'aimerais bien faire une belle coproduction sur ça. Ouais, exactement, ça me fait rêver ça.
Bien, bah je rappelle donc que votre studio s'appelle Sequenza, il y a un site, c'est
www.sequenza.fr.
Ouais,
exactement.
Merci Thomas Vintrignier.
Merci, c'est un plaisir.
You've been lying in bed for a week now, wondering how long it'll take. You haven't spoke. I looked at her in all that time. For they were the easiest lines you could break. She's been going round her business as usual, always with that melancholy smile. But you were too busy looking into yourself to see the tiny tears in her eyes. Tiny tears make up an ocean. Tiny tears make up the sea. Let them pour out a love. Hurt someone so much you're supposed to care for. Someone you said you'd always be there for. But when that water breaks, you know you're gonna cry, cry. When those tears start rolling, you'll be back with tiny tears. Make up an ocean. Tiny tears. Make up the sea. Let them pour out. Pour out a love.
Cobuzz.com Rencontre
haute fidélité
par Marc Zisman.